voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme me rencontre Amélie Nothomb. Ce soir, la Belgique et le Japon.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Marie-Laure Delorme.
Vous êtes fille de diplomate belge, née en Belgique en 1966. Vous avez publié en 1992, à 25 ans, Hygiène de l'assassin. Le succès depuis ne s'est jamais démenti. Nous sommes chez votre éditeur, Albin Michel, avant de passer plusieurs heures en votre compagnie à tenter de mieux vous connaître et surtout, dans votre cas, de mieux vous comprendre. J'ai une question et je vous demande de dire la vérité, puisque votre réponse va planer sur tous nos entretiens. Vous arrive-t-il de mentir en interview ?
Le moins possible, mais ça m'arrive, oui.
D'accord, donc faut qu'on soit sur nos gardes en vous écoutant.
Comprenons-nous bien, mon but est évidemment de dire la vérité. Il peut arriver que cette vérité soit impossible, soit qu'elle me mette en danger moi, soit qu'elle mette en danger des proches. Donc c'est ma limite.
Nous allons parler dans cette première partie de votre enfance, de votre jeunesse. Elle a été marquée essentiellement par deux pays, la Belgique et le Japon. Je suis tombée sur une photo de vous, enfant. Vous avez des yeux immenses, vous avez un regard intense. Qu'est-ce que voient ces yeux d'enfant ?
Je vois la beauté. Ma petite enfance a eu lieu non seulement au Japon, mais pas dans n'importe quel Japon. Dans le Japon traditionnel du Sud, mon père était consul général à Osaka. C'est là que j'ai vécu mes premiers souvenirs, c'est là que j'ai appris le monde. Dans une maison traditionnelle japonaise, au cœur d'un jardin magnifique, dans les montagnes. Vous savez, le Japon tel qu'on le rêve. Mon père était posté à Osaka, mais nous ne vivions pas à Osaka. Nous vivions dans un village qui s'appelait Shukugawa et qui était dans les montagnes du Kansai, donc la région la plus ancienne du Japon. Je suis née au paradis et, comme tous les enfants, je trouvais que c'était normal de naître au paradis et de vivre au cœur de l'amour, de la beauté. J'avais deux mamans, ma maman belge que j'aimais profondément et que je continue d'aimer profondément, et aussi ma maman japonaise qui était ma nounou, qui s'appelait Nishio-san, et que j'aimais tout autant que ma mère. Donc j'étais, on peut dire que je vivais au cœur d'un très grand amour et au cœur d'une très grande beauté.
Dans quelle famille vous êtes née ? Je vous pose la question presque d'un point de vue sociologique.
Je viens de ce qu'il est convenu d'appeler une bonne famille belge, c'est-à-dire une famille appartenant à l'aristocratie de droite catholique, avec tous les lieux communs que vous imaginez sont vrais, et en même temps ils ne sont pas vrais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vrais pour mes parents. Mon père n'a pas choisi pour rien la carrière diplomatique. Quand il a découvert les limites de sa famille, à laquelle il adhère et qu'il adore, quand il a découvert les limites de sa famille, il a éprouvé le besoin d'aller vivre à l'étranger. Une carrière diplomatique était pour lui l'idéal. Ma mère vient d'une famille, on va dire, du même niveau, mais inférieure. Ma mère vient d'une famille flamande, de la toute petite noblesse belge. C'est pour ça que mon père a éprouvé le besoin de partir à l'étranger. La famille Nothomb avait opposé un veto à ce mariage en disant qu'il ne serait pas question que le rejeton d'une famille aussi illustre que les Nothomb épouse une femme non seulement flamande, mais surtout issue de la plus petite noblesse. Ça, c'était pas possible. Mon père a tenu bon, ma mère a tenu bon aussi, et ça a pas mal irrité mon père, en plus de voir que son épouse était si mal reçue parce qu'il avait bravé cet interdit en l'épousant quand même. Il a éprouvé le besoin d'aller vivre au loin et je pense qu'il ne l'a jamais regretté.
Vous êtes donc l'enfant d'une histoire d'amour.
D'une véritable histoire d'amour, oui. Un peu Roméo et Juliette à la sauce belge.
Et qui était votre père et qui était votre mère ? Là, j'ai presque envie de dire que je vous pose la question d'un point de vue psychologique.
Alors, Dieu merci, ils sont tous les deux toujours de ce monde, donc je peux encore répondre au présent. Mon père est un homme très brillant, très complexe. Il donne à tout le monde l'impression, vrai du reste, d'être un homme extrêmement gentil, rond, aimable, d'un abord extrêmement courtois. Moi qui pense bien le connaître, je peux vous dire qu'il n'est pas que cela. Et tout cela est vrai, il ne fait pas semblant, c'est un très très grand diplomate et il avait toutes les qualités qu'il fallait pour ça, mais c'est aussi un homme qui cache qu'il est extrêmement tourmenté. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, personne ne sait ce que c'est. Je crois d'ailleurs être une des seules à avoir remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. C'est un homme qui ne dit pas tout ce qu'il a à dire. Voilà, c'est un homme mystérieux. Ma mère est une personne de pure lumière. Comme je comprends mon père d'avoir bravé un interdit familial pour épouser ma mère. Ma mère est la beauté, l'enthousiasme, la joie personnifiée. Pourtant, on ne peut vraiment pas dire qu'elle ait eu une vie facile. Elle vient d'une famille compliquée. Elle n'a pas eu une vie facile avec mon père non plus. Par exemple, quand mon père a été posté en Afrique, son tout premier poste était le Congo belge, qui venait de devenir le Zaïre. Bon, il y a eu une énorme prise d'otage, l'ancêtre de Kolwezi, mais du côté belge, ça s'est appelé la prise d'otage de Stanleyville. Mon père a été otage, chef des otages, c'est-à-dire parlementaire, pendant 4 mois. C'est-à-dire que pendant 4 mois, tous les matins, les rebelles disaient aux 2000 Belges présents « Nous allons tous vous tuer ». Et mon père disait « Très bien, mais auparavant, nous allons parler ». Et comme chez Erazade, il a fait parler les rebelles de façon assez psychanalytique pendant 4 mois, moyennant quoi il a sauvé la vie de 2000 personnes. Pendant tout ce temps-là, ma mère n'avait aucune nouvelle de lui. Elle était à Kinshasa. Elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Elle ne savait pas si son mari était mort ou vivant. Elle avait déjà 2 petits-enfants, mon frère et ma sœur. Donc ça vous donne une idée du genre de vie qu'a eu ma mère. Eh bien, elle est passée au travers de telles épreuves avec le sourire, avec une espèce d'énergie débordante, d'enthousiasme débordant. C'est très bien d'être l'enfant de mon père et de ma mère. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait de colossales erreurs, mais je trouve qu'ils m'ont beaucoup plus apporté de cadeaux qu'ils ne m'ont apporté de chaînes.
Et ça a un sens, vous disiez que vous étiez l'enfant de votre père et de votre mère. Ça a un sens de vous demander si vous êtes davantage la fille de votre père ou davantage la fille de votre mère?
Il est absolument certain qu'ils m'ont fait à deux, car je tiens énormément des deux. Physiquement, j'ai envie de dire malheureusement, je tiens de mon père. Je dis malheureusement non que mon père soit un homme horrible, mais parce que ma mère était une femme d'une beauté absolument insoutenable. Malheureusement, je ne suis pas son sosie. Tout le monde qui me voit dit toujours « Ah, tu es la fille de Patrick ». Oui, c'est vrai, ça se voit, je suis la fille de Patrick. Mais je pense tenir quand même pas mal de choses de ma mère aussi, mais ça vient plus de l'éducation. J'ai toujours vu ma mère énergique, joyeuse, pleine d'entrain, ce qui fait que, je ne vais pas dire que je suis toujours joyeuse, malheureusement non, mais je crois que je suis toujours énergique et pleine d'entrain. Petite, quand j'avais des moments de désespoir parce qu'on avait quitté un pays, parce que j'avais perdu ma maman japonaise, parce que ça n'allait plus, comme ça peut être le cas pour tous les enfants, ma mère m'a toujours dit « Mais tu n'as pas le droit, va de l'avant, la vie est formidable ». Et je vois bien que même si elle ne m'a pas convaincue, j'ai quand même acquis ce réflexe. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse aller. Quand c'est la fin du monde, j'ai encore de l'énergie pour y aller.
Vos grands-parents ont-ils compté pour vous ?
Alors, mon père a perdu son propre père quand il avait 8 mois dans un accident militaire. Donc, il était orphelin. Donc, côté grand-père paternel, il n'y a tout simplement rien à dire. Ma grand-mère paternelle a énormément compté. C'est la fameuse grand-mère du chocolat blanc, qui est dans Métaphysique des tubes. C'est celle qui me fait découvrir le plaisir en m'offrant du chocolat blanc. Elle est morte 3 mois plus tard, mais je crois que même en une seule rencontre, on peut dire qu'elle m'a fondée en me faisant découvrir le chocolat, qui reste mon aliment fondamental. Et puis, il y a mes grands-parents maternels que j'ai découverts plus tard. Ce sont des gens plus sombres, je vais dire. Mon grand-père maternel était un homme très tourmenté, très intelligent, très cultivé, mais très culpabilisant, vivant lui-même dans une très grande culpabilité. Donc, c'était une personne assez sombre. Et ma grand-mère maternelle est le fameux monstre dont j'ai tant parlé dans mes livres. Elle était en Belgique une méchanceté célèbre. Elle était serial killer de chats. Tous les chats du quartier de Bruxelles où elle vivait ont tous disparu dans des circonstances mystérieuses. Moi, je sais, elle les assassinait dans les pires souffrances parce qu'elle détestait les chats. La première fois qu'elle m'a vue, j'avais 17 ans, elle m'a dit « Eh bien, ma petite, j'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide ». Et tout ce qu'elle m'a dit était à l'avenant. Donc, oui, je pense qu'on peut dire que sa célébrité de méchanceté était totalement méritée.
Vous êtes avec cette famille-là, et c'est une des premières choses que l'on dit de vous quand on vous rencontre, très bien élevé. Est-ce que la courtoisie, c'est un atout ou c'est un handicap dans la vie, dans les relations humaines?
Je pense que c'est plus un atout qu'un handicap. Mais il a fallu quand même que je complète mon éducation par moi-même, parce que même si c'est vrai, je pense que mes parents m'ont appris à être poli et que la politesse, je le répète, est un atout, elle ne m'avait pas préparée à certaines situations parisiennes, à certaines situations de la vie littéraire, face à laquelle la politesse ne peut malheureusement pas grand-chose. Je parle des gens qui vous harcèlent, qui vous apportent des manuscrits à n'en plus finir, et qui s'offusquent si vous n'avez pas aimé votre manuscrit, leur manuscrit, ou si vous n'avez pas lu leur manuscrit. Ou... Disons qu'au tout début, j'appliquais avec le monde des lettres les règles que m'avaient apprises mes parents. Et je peux vous dire que j'étais très handicapée, finalement, parce que j'étais beaucoup trop gentille et que je me laissais envahir dans des proportions juste inhumaines. On va dire que Florence Godfernot a complété, Florence Godfernot qui est mon attachée de presse aux éditions Albin Michel, a complété mon éducation en m'apprenant une fois de temps en temps à dire non, ou voire à être un petit peu désagréable ou un petit peu sèche face à certaines personnes vraiment beaucoup trop envahissantes.
Au final, vous diriez que vous venez d'une famille excentrique ou d'une famille conventionnelle ?
Les deux à la fois. Je viens d'une famille extrêmement conventionnelle. Les Nothombes sont une famille extrêmement conventionnelle. Mais je viens du noyau, de la partie excentrique de cette famille extrêmement conventionnelle. Mon père était dans sa famille un homme excentrique. Déjà, le simple fait qu'il ne soit pas raciste était vu par la famille comme une excentricité. Mon père est farouchement antiraciste. Je l'en bénis. Aux yeux de ses parents à lui, par exemple, c'était vu comme une anomalie. Le racisme était une chose héritée, indiscutable. Donc on lui disait, mais tiens, tu n'es pas raciste, mais comme tu es étrange. Donc, par ailleurs, je pense que mes parents avaient tous les deux une véritable créativité. Ils n'en ont finalement pas fait grand-chose, mais ils en faisaient grand-chose dans la vie de tous les jours. J'ai toujours vu mes parents chanter des chansons qu'ils avaient inventées, faire des petits duos comiques ensemble. Ils avaient vraiment de la fantaisie. Et Dieu merci, ils ont aujourd'hui 83 et 82 ans, ils ont toujours de la fantaisie.
Vous avez, sauf erreur de ma part, un frère, oui. Une sœur.
Oui.
Quel rapport vous avez avec eux ?
J'ai de très bonnes relations avec mon frère et ma sœur. Bon, surtout avec ma sœur, ce n'était un secret pour personne, que ma sœur et moi, c'est le grand amour. J'ai toujours eu une relation extrêmement fusionnelle avec ma sœur. Avec mon frère, qui est donc l'aîné des trois, ça n'est pas allé de soi. C'est-à-dire que c'était une situation extrêmement courante. Il faisait rien que m'embêter. Quand je suis née, il m'a trouvée tout à fait importune et il me l'a fait savoir de toutes les façons. Mais en même temps, il n'y a pas de tragédie familiale à déplorer. Je crois que c'est assez récent historiquement que les grands frères soient une espèce gentille. Je viens de l'ancien monde où les grands frères étaient des importuns professionnels qui étaient là pour embêter leur petite sœur. Donc j'ai vécu ça avec mon grand frère jusqu'à l'âge adulte. Maintenant que nous sommes adultes, nous avons des relations tout à fait agréables et pacifiées. Ce qui est beaucoup plus mystérieux, c'est ce qui s'est passé avec ma grande sœur. Parce que ça a été véritablement un coup de foudre réciproque. Ma grande sœur m'a toujours dit que j'étais son premier souvenir. Elle était allée à la maternité quand maman avait accouché de moi. Elle m'a vue dans les bras de maman et elle a eu le coup de foudre pour moi, ce qui n'allait pas de soi. Elle avait elle-même 2 ans et demi, elle aurait très bien pu être jalouse, se dire « mais elle va me voler l'amour de ma mère » ou pas du tout. Elle est tombée en amour pour moi et réciproquement. Je pense qu'instinctivement, elle m'a aidée à faire le bon choix. C'est-à-dire que ma grande sœur est parée de toutes les qualités possibles et imaginables. Elle a hérité de la fameuse beauté maternelle. Elle est d'une grâce folle. Elle a tous les talents. Elle chante, elle danse, elle cuisine comme une fée. Elle est extrêmement créative. Donc, j'aurais pu la détester, moi qui étais très loin d'avoir toutes ses vertus. Et c'est le contraire qui s'est produit. Je crois qu'elle m'a fait comprendre par l'amour qu'elle a d'emblée eu pour moi. Oui, tu peux me détester parce qu'en effet, je suis une fée, mais je te propose de m'aimer parce que moi, je t'aime. Et grâce à ça, elle m'a toujours tirée vers le haut parce qu'en effet, elle était parée de 1000 qualités que je n'avais pas, mais au lieu de les lui envier, non seulement j'ai aimé ses qualités chez elle, mais je ne vais pas dire que j'ai essayé de l'égaler, ça aurait été vraiment une sottise de ma part. Mais par exemple, elle m'a donné des idées. C'est elle qui a commencé à écrire. Jamais je n'aurais osé me mesurer à ma sœur, mais... Quand même, ça m'a appris qu'on pouvait être une petite fille, une jeune fille, et penser à écrire.
Amélie Nothomb, parlez de votre enfance, parlez de votre jeunesse, parlez de votre vie. c'est forcément parler du Japon.
Oui.
Le Japon, sauf erreur de ma part, vous l'avez quitté à 5 ans.
Oui.
Pour la Chine.
C'est cela.
Après, vous avez visité, suivi votre père dans de nombreux
oui.
pays. J'ai envie de vous demander de quelle nationalité vous êtes. Est-ce que vous êtes belge ? Est-ce que vous êtes française ? Est-ce que vous êtes japonaise ?
Soyons d'emblée clairs, je ne suis pas française. Dieu sait si j'aime la France et si j'aime les Français, mais j'ai tous les jours de bonnes raisons de sentir que je ne suis pas française. Il y a énormément de caractéristiques des Français qui me font défaut et je m'en rends compte tous les jours. J'ai longtemps pensé que j'étais japonaise, j'ai longtemps affirmé que j'étais japonaise, lisant la perplexité dans le regard des gens, m'en fichant totalement, persuadée que j'avais raison et qu'un jour je prouverais à la face du monde que j'étais japonaise. Il a fallu mon retour au Japon à l'âge de 21 ans et l'épisode que je relate dans Stupeur et Tremblement, c'est-à-dire mon formidable échec professionnel, pour que je me rende compte que finalement, non, je n'étais pas japonaise. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait rien de japonais en moi. Il y a beaucoup de choses japonaises en moi. Une certaine courtoisie, un certain goût de l'harmonie, une certaine obsession pour la beauté, et d'autres caractéristiques encore. Par exemple, je suis terrifiée par les conflits, alors que les Belges et les Français adorent les conflits. On est un peuple de guerriers, c'est ça. Tandis que les Japonais sont terrifiés par les conflits, et à la base, je suis comme ça. Ce qui ne signifie pas que je vais refuser de me battre s'il le faut. Mais ma première attitude quand je vois un conflit, c'est soit de faire machine arrière, soit de me faire toute petite, soit d'être alors une véritable japonaise, c'est-à-dire de travestir mon opinion, quitte à adopter une opinion qui me ressemble, mais aussi peu que possible, tout pour éviter le conflit. Bon, ces caractéristiques n'ont pas suffi à faire de moi une véritable japonaise. Je n'avais pas la capacité de dévouement qu'il fallait. Je n'avais pas la capacité de travail qu'il fallait. Pourtant, je suis une grande travailleuse. Je n'avais surtout pas la capacité de sacrifice qu'il fallait. Bref, j'ai fini par comprendre que je n'étais pas japonaise du tout. Et après examen, je pense que je suis vraiment une Belge. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que ça voulait dire. En vérité, il a fallu la crise gouvernementale qu'a traversée la Belgique à partir de 2008 et qui ne s'est jamais vraiment tout à fait terminée, et qui d'ailleurs avait commencé bien avant, mais qui pour moi a vraiment commencé en 2008 quand tous les journaux français, par exemple, ont annoncé la fin de la Belgique. Et m'en parlait, me téléphonait chez Albin Michel en me disant « Quel effet ça fait d'assister à la fin de votre pays ?» J'ai ressenti une telle terreur, un tel désespoir, un tel hurlement intérieur à l'idée que ce pays pouvait disparaître, que je me suis dit, mais au fond, il faut vraiment que ce soit mon pays pour que j'y tienne tant. Je ne sais pas au juste ce que cela veut dire, mais j'ai lu tous les journaux à l'époque où il était tellement question de la disparition de la Belgique, et je lisais que la Belgique était un pays fuyant, d'une identité floue, inattrapable, qu'on ne savait pas ce que c'était que le Belge. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais tout cela, c'est moi, c'est tout ça me ressemble complètement. Je suis moi aussi, fuyante, floue, inattrapable. Cette identité impossible et indéfinissable, en fait, c'est moi. Ça me convient comme un gant. Donc j'ai mis du temps à comprendre que j'étais belge, mais maintenant j'en suis sûre, je suis belge.
Après avoir beaucoup voyagé, vous revenez à 17 ans en Belgique.
Oui.
Vous entrez à l'université.
Oui.
Comment ça se passe dans ce pays que vous aimez tant ?
Alors, j'ai appris à l'aimer tant. Maintenant, j'aime en effet profondément la Belgique. Je dois dire que quand j'ai réellement découvert ce pays à la fin de mon adolescence, ça n'a pas du tout été un coup de foudre. Je trouvais le pays très beau, c'est pas ça le problème. C'est que je m'y sentais extraordinairement rejetée. J'avais toujours pensé que ma solitude s'expliquait par le fait que je vivais dans des pays étrangers. Je parle en particulier de la solitude que j'ai vécue pendant mon adolescence dans le sud-est asiatique, au Bangladesh, en Birmanie et au Laos. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'école pour ma sœur et moi, et qu'en dehors de ma sœur, je n'avais aucune compagnie. Donc, il était légitime dans mon cas de parler d'extrême solitude, et je pensais que cette solitude trouverait son terme quand j'arriverais dans mon pays, la Belgique, à l'âge de 17 ans. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Quand je suis arrivée en Belgique, j'ai découvert une solitude encore plus grande que celle de mon confinement du sud-est asiatique. C'est-à-dire que j'ai d'emblée commencé l'université libre de Bruxelles. J'avais choisi à dessein cette université qui n'était pas l'université à laquelle mes origines familiales me prédisposaient. En Belgique, on vit encore très fort sous un axe école sans Dieu, école avec Dieu, université sans Dieu, université avec Dieu. Venant de la famille la plus catholique de Belgique, on attendait évidemment que j'aille à l'université catholique. Et je suis allée à l'université sans Dieu. Je peux vous dire que personne ne m'en a admiré, ni la famille qui trouvait ça absolument révoltant, ni encore moins l'université sans Dieu. Il n'y a pas eu une seule personne, que ce soit étudiante ou professeur, qui ne m'ait pas dit dans cette université « Mais qu'est-ce que tu fous là, Nothomb ? Retourne chez les tiens. » Donc le moins qu'on puisse dire, c'était que j'étais non seulement le cul entre deux chaises, mais en plus, j'avais une impression d'être pestiférée. Je faisais tout ce que je pouvais pour avoir des amis, je voulais avoir des amis, j'ai toujours voulu être intégrée, j'ai toujours voulu avoir des amis, et je n'en avais aucun. Bref, j'avais une vie extrêmement ingrate pendant mes études universitaires.
Est-ce que partout où vous allez, vous avez un sentiment justement d'étrangeté, d'être une étrangère, hein ?
Absolument. C'est une impression qui ne m'a pas lâchée. C'est une impression que j'ai toujours aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai enfin appris à apprécier cette impression.
C'est un orgueil ou c'est une douleur d'être partout une étrangère, de se sentir partout une étrangère,
hein ? Ça a très longtemps été une douleur. Les enfants n'aiment pas être étrangers. Les enfants aiment qu'on les trouve normaux. J'ai toujours eu la douleur de sentir qu'on me regardait comme un être bizarre. Enfant, je n'aimais pas cette impression. Adolescente, c'était pire que tout. Mais surtout, je le répète, surtout quand je suis arrivée en Belgique, c'est là que cette impression de rejet a été plus forte que tout. Je ne dis pas que les Belges sont conventionnels, ils ne le sont pas tous. Ils sont même capables d'être extrêmement originaux, de péter les plombs plus fort que tous les autres. Mais il y a une normalité belge assez lourde, qui est vraiment celle que j'ai rencontrée à l'université, aux yeux de laquelle j'étais, mais la plouque totale. Je ne parlais pas comme il le fallait, je ne m'habillais pas comme il le fallait, je portais un nom de famille qui me rendait profondément indésirable. Pour toutes ces raisons, je n'étais absolument pas fréquentable et on me le faisait rudement savoir. Alors par la suite, je suis retournée au Japon, ça a été, on va dire que ça a été l'apocalypse dans l'entreprise. Bon, finalement à 23 ans, je retourne en Belgique, je me dis « écoute ma vieille, tu es un cas social, et si tu essayais de publier les innombrables romans dont tu remplis tes tiroirs ? » À ce moment-là, j'ai écrit ce qui était alors mon 11e manuscrit, « Hygiène de l'assassin », je l'envoie à Paris, il est publié quand j'ai 25 ans, et je connais d'emblée un véritable succès. C'est grâce à cela que je vous connais, Marie-Laure. Mais c'est vrai qu'après, mon sentiment d'étrangeté s'est poursuivi, mais il est devenu plus agréable. C'est-à-dire que je pouvais le traduire en orgueil. Ce n'était plus que j'étais uniquement pestiférée. C'est peut-être que j'avais quelque chose. Maintenant, je dois dire que je suis pacifiée avec ce sentiment d'étrangeté. Je sais que je suis une étrangère professionnelle. C'est même le cas quand je suis en Belgique, parce que même si j'ai fini par comprendre que j'étais belge, je n'ai pas encore assimilé tous les codes. Mais j'ai fini par comprendre que vivre à l'étranger, ce qui est mon lot, tous les jours de ma vie, je vis à l'étranger, c'est au fond ce qu'on peut connaître de mieux sur Terre.
J'ai regardé hier un documentaire, Une vie entre deux eaux, qui est un portrait de vous, où on vous suit au Japon. Il y a cette scène que j'ai vraiment trouvée bouleversante, de vos retrouvailles avec votre nounou, qui est donc celle que vous appelez
Nishio-san.
Voilà, qui a été une sorte de seconde mère japonaise. Ça vous a marqué, ces retrouvailles ?
Cette scène, je ne peux pas trop revoir ce documentaire, parce que chaque fois que je vois ce documentaire et que j'arrive à la scène clé, qui est la scène des retrouvailles 40 ans plus tard avec la nounou, mais je pleure toutes les larmes de mon corps. Certaines personnes m'ont dit « Mais comment avez-vous pu tolérer d'être filmée pendant cette scène ?» Je leur ai dit « Mais vous savez, si je n'avais pas été filmée pendant cette scène, je pense tout simplement que je me serais évanouie. » Le choc a été si fort, c'était tellement bouleversant de retrouver ma seconde mère 40 ans plus tard, que s'il n'y avait pas eu la pression d'une caméra pour me maintenir debout, je me serais tout simplement effondrée. Et retrouver cette petite femme qui, dans mon souvenir, était tellement grande et puis qui s'avérait mesurer quoi, 1m45, 1m50, je n'en sais rien, et puis qui avait été complètement abandonnée par sa famille et qui vivait dans une extrême précarité et qui en même temps était si belle, si digne, si courageuse, ça a été un moment absolument bouleversant. Nous sommes tombés dans les bras l'une de l'autre et par la suite, je lui ai écrit, elle m'a écrit une seule fois pour me dire « Amélie San, quand je vous ai reçue chez moi, j'ai oublié de vous servir du thé, je vous présente toutes mes excuses. » Je garde précieusement cette lettre dans mon bureau, c'est absolument bouleversant.
Est-ce que vous diriez, Amélie Nothomb, que vous avez beaucoup changé depuis votre enfance ou que vous n'avez pas suffisamment changé depuis votre enfance ?
Je dirais que je n'ai pas suffisamment changé depuis mon enfance. Il m'est resté une chose de mon enfance qui est absolument débile, mais je n'y peux rien. C'est, je crois au Père Noël. Je vous explique. C'est que j'ai toujours l'impression qu'il va se passer des choses extraordinaires. Petite, j'en étais, mais persuadée. Je me souviens que petite, j'étais persuadée d'aller au-devant d'un très grand destin. Mais quand je dis très grand destin, mais vous n'avez pas idée. J'étais complètement mégalo. Bon, entre-temps, j'ai compris qu'il n'y avait pas lieu d'être mégalo. Mais je demeure persuadée que je vais au-devant d'un grand destin. C'est honteux de dire ça, mais l'honnêteté me force à vous le dire. Puis, en même temps, on ne peut pas dire que ça m'ait tout à fait porté malheur, parce que, somme toute, ça n'allait absolument pas de soi qu'une petite Belge, sans aucun talent de naissance, on arrive à avoir un entretien avec Marie-Laure Delorme. Donc, finalement, j'ai eu raison de croire au Père Noël.
Ce destin, on va l'explorer demain dans une deuxième partie. À demain, Amélie Nothomb.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Amélie Nothomb. À voix nue, réalisation Laurent Polleret, prise de son Laurent Macchetti, coordination Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.